Chapitre 17. Mes fiançailles étaient maintenant officielles. Je les avais annoncées au Bardôme à Madame Mossette. La stupéfaction de mes bons métayers se transforma vite en joie et Catherine s'écria « Vous méritez bien ce beau mariage, Mademoiselle Gilette, une jeune fille si courageuse. Dame, il n'a pas mauvais goût, monsieur le vicomte. Vous ferez une jolie dame de château, n'est-ce pas, Julien ?»« Pour sûr, monsieur Guy aura du contentement avec vous, plus que s'il avait épousé des millions, notre demoiselle, parce que vous êtes travailleuse, entendue à tout, et puis qu'on vous aime déjà dans le pays où vous êtes si bonne pour les malheureux. Faut espérer, par exemple, qu'il ne sera pas trop dur. C'est ça qui est à craindre. » Sa femme lui lança une bourrade dans le bras. « Veux-tu bien te taire? Ne va pas effrayer comme ça, Mademoiselle Gilette, avec tes idées. Tiens, la voilà qui a pâli. Voyons, ma chère demoiselle, vous n'allez pas vous imaginer ça? Moi, je suis sûre qu'il vous rendra très heureuse, parce qu'il vous aimera beaucoup. » Elle essayait de prendre un accent convaincu. Mais je devinais bien que le caractère de M. de Trézonne lui laissait aussi des doutes pour mon bonheur. Ces doutes, je les retrouvais chez Mme Mossette. Comme je demandais à la vieille dame si elle pouvait préciser ses craintes à ce sujet, elle répondit « Je vois assez peu, M. de Trézonne, comme je vous l'ai appris, et mon impression s'est surtout formée par l'opinion qu'on se fait de lui dans le pays. J'ai toujours entendu dire, quand on parlait de son mariage éventuel, « Il ne sera pas un mari facile. Mais, au fond, personne n'en sait rien. Le fait certain, c'est qu'il a de sérieuses qualités. Et pour le caractère, qui est le point d'interrogation, dites-vous bien, mon enfant, qu'une femme intelligente, discrète et aimable peut bien souvent exercer une influence puissante et transformatrice. » Tout cela ne me rassurait qu'à demi. Seules, les paroles de M. Rouchen étaient franchement encourageantes. Je me répétais que lui devait, mieux que tous, et qu'il était raisonnable de tenir pour nulle l'opinion générale qui vouait au malheur la future vicomtesse de Trézonne. Cependant, je restais inquiète, partagée entre l'angoisse et une joie timide, presque peureuse. Ce fut dans ces dispositions que je reçus la première visite de mon fiancé, le lendemain du jour où je lui avais fait tenir ma réponse par M. Rouchen. Il vint, accompagné de sa belle-mère et de Jacqueline. En me baisant la main, il me remercia en termes très aimables. Puis Madame de Trézonne et Jacqueline m'embrassèrent en se déclarant ravis du choix de leurs beaux-fils et frères. Nous nous assîmes dans mon petit salon, tout parfumé par les fleurs blanches, envoyées le matin même de la Bottellerie. J'avais mis ma robe bleue et glissé à ma ceinture une de mes roses d'un si beau rouge sombre. La vicomtesse et Jacqueline bavardaient beaucoup, heureusement, car j'étais si émue, si gênée, que je n'aurais su trouver aucun sujet d'entretien. Monsieur de Trézonne parlait peu. J'avais déjà remarqué qu'il dédaignait de prendre part à la conversation quand sa belle-mère la dirigeait. Je dois convenir qu'elle était généralement peu intéressante et d'une futilité désagréable. Elle me permettait de répondre par quelques phrases courtes, quelques monosyllabes, et de dissimuler l'embarras que me faisait éprouver la présence de M. de Trézonne. Jacqueline demanda « Vous nous montrerez votre jardin, n'est-ce pas, mademoiselle? J'ai grande envie de voir vos ruches. » Le jour était gris, un peu brumeux. Une humidité tiède nous entourait, tandis que nous longions les carrés de légumes, si bien entretenus par Bardôme et par Jacques. Des passereuses s'effeuillaient au bord des plates-bandes, sur les choux, dont la senteur âcre et lourde montait dans l'air. Une pluie nocturne avait mouillé la terre et les pas enfoncés dans le sol glaiseux des allées étroites. Je précédais ces dames avec M. de Trézonne. En revenant vers la maison, après avoir été jusqu'aux ruches, nous nous trouvâmes au contraire derrière elles. Il demanda « Vous vous étiez vraiment bien habitué à cette maison ?» Autant qu'on peut s'habituer, avec une nature comme la mienne, à la solitude et à la tristesse. » Il ralentit le pas et je sentis son regard qui s'attachait sur moi. « Une nature comme la vôtre, quelle est-elle donc ? » Je levai les yeux et rencontrai les siens, énigmatiques toujours. Mes lèvres un peu tremblantes murmurèrent « Elle a besoin d'affection, de vie familiale. » Nous passions près d'un cerisier. Un fruit trop mûr tomba sur l'épaule de Guy de Trézonne et s'écrasa sur le sol. Le vicomte fit observer « Il sera temps de cueillir vos cerises, mademoiselle. » Son regard s'était détourné du mien et considérait attentivement les arbres fruitiers. Mon cœur se serra si fortement que j'en éprouvai comme une souffrance physique. Nous fîmes quelques pas en silence. Je regardai Madame de Trézonne qui avançait à petits pas précautionneux pour ne pas salir ses élégants souliers très découverts et je devinai quel dédain pour mon pauvre jardin emplissait son âme. Mais combien cela m'importait peu. Si lui avait été autre. Oh, comment pouvais-je croire qu'il m'aimait? Aurait-il eu cette attitude, ce langage, en ce cas? Sous les tilleuls, il s'arrêta et regarda les roses rouges qui couvraient la façade crevassée. D'un geste nerveux, j'effeuillai machinalement celle que je portais à la ceinture. Il dit à mi-voix, en se tournant vers moi, « Laissez-la, elle fait un si original contraste avec le bleu pâle de votre robe. » De nouveau, nos yeux se rencontrèrent. Dans les siens, je retrouvais cette clarté de vie lointaine, concentrée, ardente pourtant, que j'avais déjà remarquée parfois lorsqu'il me regardait. Mon cœur se troubla, mes cils tremblèrent et s'abaissèrent un peu. Monsieur de Trézonne ajouta, de la même voix basse et calme, « Elle est charmante, votre robe couleur de beau ciel. Pourrais-je vous demander de la mettre souvent pendant nos fiançailles ?» Je murmurai, « Oui, je la mettrai si cela vous fait plaisir. » Et nous rejoignîmes les deux dames dans le salon. Les visiteurs prirent congé après qu'il eût été convenu que, étant donné ma situation de solitaire, qui empêchait que M. de Trézonne vînt me faire sa cour chez moi, je me rendrais souvent au château. Je les reconduisis jusqu'à la grille rouillée, puis je revins lentement et m'assis près de la table. Le parfum des fleurs de fiançailles m'enveloppa. J'appuyai mon front contre ma main et je songeai longtemps, si longtemps que le crépuscule me surprit là, toute palpitante de crainte, de tristesse, parce que je pensais à ma mère, à ma pénible solitude d'orpheline et à l'avenir, à lui, mon fiancé, que j'aimais en tremblant, parce que je me disais qu'il ne serait pas pour moi le très tendre ami désiré, mais le maître uniquement. Monsieur de Trézonne partit le lendemain pour Paris afin de choisir ma bague et la corbeille. Notre mariage serait célébré 3 semaines plus tard, car de trop longues fiançailles, dans ma situation, auraient été gênantes. Il fut absent 48 heures et je le vis ensuite presque chaque jour, soit au château, soit à la Sauvée. Son attitude ne variait pas. Il restait courtois, aimable, très réservé, et rarement je voyais dans son regard cette clarté qui me troublait tant. J'essayais de me délivrer de la gêne qui me saisissait toujours devant lui. Mais sa manière d'être ne m'y aidait guère, il fallait l'avouer. Le bon père Rouchaine, quand nous étions tous deux près de lui, nous couvrait d'un regard de douce satisfaction. Visiblement, ce mariage le ravissait. D'ailleurs, il ne me le cachait pas. « Monsieur Guy fera un si bon mari, voyez-vous, mademoiselle. Vous verrez comme vous serez heureuse. » Je ripostais en essayant de sourire. « Je n'en suis pas du tout persuadée. Voyez comme il est froid. »« Oh, c'est l'extérieur, cela. Mais vous verrez quand vous le connaîtrez mieux. Vous verrez, mademoiselle Gillette. » À la meulière, le contentement avait pris le pas sur l'inquiétude. Catherine se rengorgeait à la pensée que mademoiselle Gillette allait devenir la châtelaine. Et quelle châtelaine, si riche, avec ce beau château et un mari autour duquel toutes les femmes tournaient. Tenez, voyez-vous, mademoiselle, il voulait la meunière, il l'a eue. Il arrive à tout ce qu'il veut, cet homme-là. Par ailleurs, les pauvres gens avaient bien du souci. Angélina, sans doute pour ne plus se trouver en face de moi, était partie pour Niort, où vivait une sœur de sa mère, qui tenait une petite épicerie. Cette tante l'a demandé depuis longtemps pour l'aider dans son commerce, mais jusqu'ici, les parents s'étaient opposés à ce qu'elle quittât la campagne. Cette fois, à la suite d'une scène, il la laissait repartir. Mais à peine y était-elle depuis 8 jours que la tante se plaignait de sa paresse, de sa coquetterie, de ses mauvaises façons. Et les Bardômes se demandaient avec désespoir « Qu'est-ce que nous allons faire ?» Les dames de Trézonne continuaient de me témoigner la plus vive amitié. De la part de Jacqueline, je sentais que ses manières aimables étaient toutes franches. Mais il n'en était pas de même pour sa mère. En connaissant mieux celle-ci, la très petite sympathie que je lui accordais auparavant s'évanouissait et j'en venais à comprendre l'attitude de Guy à son égard. Elle était de ces âmes incurablement frivoles qui n'ont jamais arrêté leurs pensées sur le devoir et n'ont aimé dans la vie que le plaisir, le luxe, la futilité. Aussi se montrait-elle bassement soumise à l'égard de son beau-fils, car lui seul pouvait lui dispenser un peu de cet or qu'elle avait gaspillé autrefois et qui lui semblait aujourd'hui indispensable pour mener sa vie oisive, élégante et sotte. Un après-midi, 8 jours avant la date fixée pour le mariage, je la trouvai seule dans le petit salon où elle se tenait d'ordinaire. Elle me fit asseoir près d'elle en m'expliquant que Jacqueline cueillait des fleurs dans le jardin et que Guy me priait de l'excuser, un accident arrivé dans l'une de ses fermes l'ayant obligé de partir en voiture aussitôt après le déjeuner. « Il sera ici à 5 heures probablement et Jacqueline va revenir dans quelques minutes. Pauvre petite, je suis bien certaine que la cueillette des fleurs n'est qu'un prétexte et qu'elle est sortie simplement pour pleurer un peu sans témoin. » Elle secoua la tête en prenant un air navré. Pleurer ? Qu'a-t-elle donc ? Quelque chagrin ? Oui, un grand chagrin. Je peux bien vous le confier maintenant que vous allez être de la famille. Elle aime Louis de Subraine et elle en est aimée. Il voudrait l'épouser, mais son père s'y refuse absolument, trouvant la dot trop mince. Guy ne donne en effet à sa sœur que 100 000 francs. Louis de Subraine ? Je l'avais vu plusieurs fois à la Bottellerie. C'était un gentil garçon, de mine franche, sympathique et d'allure distinguée. Comme M. de Trézonne, mais sur une échelle plus modeste, son père et lui administraient eux-mêmes leur domaine, situé à 10 kilomètres de la Bottellerie. Je dis avec compassion. « Pauvre Jacqueline, quel dommage! Il me semble qu'elle aurait été heureuse avec lui. Mais peut-être le père finira-t-il par céder ?» J'en doute, il ne démord pas facilement de ses idées, et pour celle-là, je le comprends assez. 100 000 francs, qu'est-ce aujourd'hui? Avec son nom, sa fortune qui est assez belle, Louis pourrait trouver beaucoup mieux. Oui, mais s'il aime Jacqueline, il me semble que la question d'argent doit être secondaire dans ce cas-là. Madame de Trézonne me regarda avec un mélange de pitié et d'amusement. « Ah, ma chère petite, que vous ignorez la vie! Mais, pauvre enfant, l'argent, c'est la question primordiale dans le mariage. » Je ripostai. « Pas toujours, à preuve M. de Trézonne, qui choisit une femme pauvre. » C'est une exception. Encore cela m'a-t-il fort étonné de sa part. Je le croyais plus intéressé. Mais, avec sa fortune, il lui est possible de se donner ce luxe. Songez donc qu'il ne dépense pas la moitié de ses revenus. C'est pourquoi il pourrait, sans se gêner le moins du monde, faire à sa sœur une dot convenable. Sait-il que cette question d'argent, seule, empêche le bonheur de Jacqueline? Oh, vous pensez bien que je ne le lui ai pas laissé ignorer. Mais il est resté impassible. Et je sais par expérience qu'une demande directe n'aurait pas de succès. Elle soupira en passant sur ses yeux son mouchoir parfumé. Il y eut un long silence. Tout en pensant à Jacqueline, je laissai mon regard errer devant moi dans la lumière qui entrait par les fenêtres ouvertes et se répandait sur le tapis clair, sur les meubles élégants. Une main tout à coup se posa sur mon bras et la voix de Madame de Trézonne murmura « Vous, peut-être, Gilette, pourriez-vous quelque chose pour nous ?» Je me détournai en la regardant avec surprise. « Moi, madame ?»« Oui, si froid qu'il soit, Guy vous aime naturellement. Quand vous serez sa femme, quand vous le connaîtrez un peu, il me semble que vous pourriez essayer d'obtenir de lui qu'il facilite, par sa générosité, le mariage de sa sœur. » J'eus un vif mouvement de protestation. « Oh, madame, que me demandez-vous là ? Songez donc combien cette démarche serait délicate pour moi que Monsieur de Trézonne épouse sans dot. » Mais non, ce serait très naturel. Il ne peut prétendre que tout le monde ait son désintéressement. D'ailleurs, ce serait à vous de choisir le moment pour adresser cette requête. Avec un homme comme Guy, il faut infiniment d'adresse, d'intelligence. Mais je suis bien certaine que vous avez ce qu'il faut sous ce rapport, sans parler de vos beaux yeux qui l'ont évidemment charmé, si peu sensible qu'il soit. Je gardais le silence, je me sentais froissé et je le montrais. Mon antipathie pour Madame de Trézonne se renforçant cette minute et je songeais à la quitter sous prétexte d'aller au-devant de Jacqueline lorsque celle-ci parut. Elle avait les yeux rougis, une mine attristée qu'elle s'efforça d'éclairer d'un sourire en me voyant. Je me montrai à son égard plus affectueuse que de coutume en regrettant au fond du cœur de ne pouvoir agir sur son frère pour lui enlever son chagrin. Mais c'était impossible. Ma position m'imposait la plus stricte délicatesse et j'en voulais à Madame de Trézonne de ne pas l'avoir compris. Guy arriva un peu après 5 heures. L'accident qui avait motivé son absence ne présentait pas de gravité. En revenant, il s'était arrêté quelques minutes à la Sauvée où il avait trouvé M. Rouchen un peu souffrant. Il se proposait d'y retourner demain et d'y rester plus longtemps. « Vous y rencontrerai-je » me demanda-t-il, tandis qu'il me reconduisait jusqu'à la grille, comme de coutume. « Mais oui, j'irai le voir dans l'après-midi et je travaillerai un peu près de lui. » « Il en sera bien heureux, car il vous aime beaucoup. Tout à l'heure, il m'a dit « Votre mariage avec Mademoiselle Gillette est ma dernière joie. » Je murmurai avec émotion. « Mon bon vieil ami !» Nous arrivions près de la grille. Je tendis la main à Monsieur de Trézonne. « Alors, à demain, monsieur !» Il demanda « Ne pensez-vous pas que nous pourrions maintenant supprimer ce cérémonieux « Monsieur, mademoiselle ?» Je rougis en répondant « Mais oui, peut-être. » Il me baisa la main. Je murmurai « Bonsoir, Guy !» Et je passai la grille très vite. Une émotion violente m'oppressait. L'appellation familière venait de me rendre plus évident le changement de vie tout proche, l'intimité de demain avec cet étranger. Jusqu'ici, j'avais eu peine à me figurer que ces fiançailles n'étaient pas un rêve. Mais aujourd'hui, je comprenais plus nettement qu'un lien m'unissait déjà à Guy de Trézonne. Au lieu de rentrer directement, je fis un détour. La marche, le grand air, pensais-je, calmerait peut-être mes nerfs quelque peu excités. En même temps, je voulais aller prendre des nouvelles d'une jeune veuve malade et pauvre à qui j'allais parfois porter les très petits secours que me permettaient mes modestes ressources. Je gagnai la demeure indigente où elle s'abritait avec ses 2 enfants et m'y attardai un peu. Le soleil était couché quand j'atteignis la meulière. Le facteur, au passage, me remit une lettre de Madame Bardusac. Je la décachetai et la parcourus tout en entrant chez moi. La femme de mon ex-tuteur répondait à l'annonce de mon mariage par des congratulations empressées. Cette brillante union la réconciliait visiblement avec moi. Je n'étais plus la 100 le sous qu'on n'avait pas voulu conserver dans la confortable villa des Palmes. Aussi, Madame Bardusac m'informait-elle que son mari serait très heureux de me servir de père. Je repliai la lettre avec un sourire de mépris. « Non, chère dame, murmurai-je, ce ne sera pas au bras de M. Bardusac que j'entrerai à l'église. Un autre remplacera plus dignement le père que je n'ai plus. » Je changeai de robe distraitement. Ma pensée s'en allait vers cette cérémonie, toute proche maintenant. Ce serait une grande fête pour le pays. Un déjeuner serait servi à tous les métayers et à leurs serviteurs, ainsi qu'aux gens du village, dans une des grandes allées convergeant vers le château, et ensuite on danserait. Tout le monde serait content. Il n'y aurait que l'épousé qui tremblerait un peu dans l'incertitude de son destin. Je me répétais, « Dans 8 jours, déjà, dans 8 jours !» L'esprit occupé de mes inquiétudes, au milieu desquelles cherchait à se glisser un peu d'espoir, je me dirigeais vers la métairie. Dans la salle, tout assombrie par le crépuscule, Bardôme se tenait debout, les bras le long du corps. Assise près du foyer, Catherine pleurait, le visage enfoui dans un mouchoir. Je m'écriai avec inquiétude. « Qu'y a-t-il ? » Bardôme dit d'une voix rauque. « Il y a que nous venons de recevoir un mot de ma belle-sœur. Angélina est partie pour se placer à Paris. Partie sans rien nous dire. Comprenez-vous, mademoiselle ?» Catherine gémit. « Est-il possible qu'elle nous donne un chagrin pareil ? Une fille pour qui nous avons tant peiné ? Et Julienne dit qu'elle va tourner mal, sûrement !» Ma pauvre nourrice me faisait pitié. J'essayais de lui persuader qu'Angélina aurait bientôt des remords et qu'elle reviendrait à la maison paternelle. Mais Bardôme, secouant les épaules, dit entre ses dents « Elle ne reviendra jamais. Ça n'a plus de cœur, les enfants d'aujourd'hui. Ça ne pense qu'à eux. » Je songeais tristement « Oui, parce qu'on ne leur a pas appris à penser aux autres. »